Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Pat Def, Flamant Rose et Soucoupe Volante aujourd'hui dans Plan Large avec Clémence Dargent, Martin Douer, Anthony Cordier, Melville Poupeau et Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Où est le cinéma aujourd'hui en France? Pas dans les salles, pour quelque temps encore, on le craint. On en parlait encore ici la semaine dernière. Non, le cinéma comme la vérité est ailleurs. Pour patienter, on se console en revisitant nos classiques en DVD ou sur diverses plateformes, mais le cinéma, déjà en crise avant même l'actuelle pandémie, avec les difficultés d'accès au financement et aux écrans, pour nombre de créateurs, a depuis longtemps déjà cherché d'autres lieux à investir où peuvent s'inventer d'autres formes de récits, plus amples, plus complexes, plus audacieux et plus étranges aussi, des objets cinématographiques non identifiés qui ont paradoxalement trouvé à la télévision, le terreau propice où éclore et proliférer. C'est ainsi que se sont réunis deux jeunes scénaristes diplômés d'une des toutes premières promotions de la filière série de la plus prestigieuse école de cinéma française, la FEMIS. Un cinéaste récompensé en 2005 pour son premier film Douche froide d'un prix Louis de Luc du premier film, en compétition à la Mostra de Venise pour son deuxième Happy Few et qui avait été encore remarqué pour la fantaisie burlesque et mélancolique de son dernier film en date, Gaspard va au mariage. Et enfin, un acteur découvert dès son plus jeune âge chez Raoul Ruiz et qu'on a vu grandir chez le Chilien pendant 12 films avant qu'il ne visite avec grâce et élégance les cinémas d'Éric Rohmer, Jacques Doyon, François Ozon, Xavier Dolan et tant d'autres. Clémence Dargent et Martin Douer, Anthony Cordier et Melville Poupeau sont tous dans Plan Large ce samedi pour nous parler d'OVNI, série télévisée unique en son genre, mélange subtil de comédie familiale et de bureau, de screwball comédie et de science-fiction poétique qui depuis lundi sur Canal+, nous plonge dans la France de 1978, un pays qui voit des ovnis partout, à la ville, à la campagne et jusqu'au journal télévisé de la première chaîne alors publique. La même année 1978, Gérard Depardieu à New York s'entichait d'un singe et se battait avec des rats. C'était Rêve de singe de Marco Ferreri. En fin d'émission, Mathieu Macheret nous parlera du grand maître mésestimé de l'âge d'or du cinéma italien, l'auteur à scandale de La Grande Bouffe, mais pas seulement. Mais pour l'heure, plongez donc dans 1978, ou plutôt ce qu'on en rêve aujourd'hui. Clémence Dargent, Martin Douer, bonjour. Je l'ai dit dans mon introduction, vous avez fait partie de la deuxième promotion de la filière série de la FEMIS, créée par le regretté et visionnaire, donc Marc Nicolas, en 2013. Qu'est-ce qu'on y apprenait dans cette filière série, Clémence Dargent?
Oui, bonjour. Eh bien, qu'est-ce qu'on y a appris dans cette filière série? Je dirais qu'on y a appris beaucoup l'écriture collaborative. C'était un des axes de la pédagogie de la FEMIS, c'était d'apprendre aux étudiants à écrire ensemble, ce qui est vraiment très particulier à l'écriture de séries. En fait, les séries s'écrivent beaucoup en groupe, en fait, en atelier. Et d'ailleurs, voilà, c'est pas un hasard si on a fini par écrire cette série à deux avec Martin. Et voilà, je dirais que c'est une des principales choses qu'on a appris dans cette très bonne formation de la FEMIS.
Et Martin Douer, quel souvenir de cette époque? Vous avez analysé, décortiqué des séries aussi?
Oui, absolument. On avait des profs qui nous enseignaient les fondamentaux de la dramaturgie et de la dramaturgie en télé, les notions de pilote. On passait en revue tous les grands pilotes de l'histoire, des Sopranos, à Mad Men, à Six Feet Under et tout ça. C'était des choses qu'on décortiquait. Et puis après, on passait à la pratique. On avait quelques mois, des premiers modules où on travaillait sur des séries qui existaient déjà, où on écrivait un peu des épisodes fantômes de ces séries qui existaient déjà, mais avec souvent les directeurs de collection ou les producteurs ou les scénaristes de ces séries. Nous, en l'occurrence, avec Clémence, on avait travaillé sur Fais pas ci, fais pas ça. Et puis la deuxième partie de l'année, c'était avec un tuteur, on créait une série. Et c'est vrai qu'une des immenses chances qu'on a eues, c'est que on avait un espace où on était entouré de gens, parce qu'il y avait effectivement Marc Nicolas, auquel on pense beaucoup à l'occasion de la sortie de cette série, mais aussi Emmanuel Dossé, Franck Philippon, Emmanuel Dossé qui a notamment produit Un village français. Et on avait comme tuteur Alan Mauduit, qui était un des créateur de Kabul Kitchen. Et donc voilà, on avait vraiment des gens qui venaient d'horizons très divers, qui avaient tous quelque chose de très important à dire sur la série télé et qui étaient là pour nous encadrer dans un contexte de liberté un peu en dehors de toute contingence commerciale là pour l'instant, puisque on devait vraiment créer la série qui nous plaisait, et voilà, ça a été une grande chance et c'était formidable.
Alors, la série qui vous plaisait, c'est en l'occurrence OVNI, puisque c'est votre projet de fin d'études de la FEMIS. Comment est-ce que ces OVNI ont débarqué dans votre vie, Clémence Dargent?
À vrai dire, c'est Martin qui avait entendu parler donc de ce bureau fantastique qui est donc le GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et très vite, donc on devait à l'issue de la formation écrire une série avec une bible et un pilote. Et voilà, Martin est arrivé avec cette idée de faire peut-être une série sur le GEPAN. Et moi tout de suite j'ai trouvé ne serait-ce que l'existence de ce bureau en France, le fait que voilà, on ait ressenti ce besoin en France, le pays du cartésianisme, d'avoir un bureau qui donnerait des réponses officielles de l'État français sur des observations de soucoupes volantes, j'ai trouvé ça génial. Et en faisant des recherches sur ce bureau, on a découvert que c'était né en 77, dans une période d'âge d'or de l'ufologie, où vraiment les ovnis étaient un sujet de conversation central. Enfin, c'était assez fou pour nous de découvrir ça. Et alors que ça peut paraître un peu démodé aujourd'hui, les ovnis, mais voilà, en pleine guerre froide, c'était quand même un sujet brûlant, d'où la création de ce bureau. Et donc voilà, on a commencé comme ça, en cherchant, on est tombé sur beaucoup d'archives de l'INA, on voyait des gens qui décrivaient leurs observations, on a lu beaucoup de livres, on s'est replongé dans des films, dans des rencontres du troisième type. Et je dois dire que ça nous a beaucoup passionnés. Moi, j'avoue qu'avant ça, j'avais jamais vraiment la science-fiction n'était pas non plus mon domaine de confort, quoi. Mais ça a été une vraie découverte. Et puis justement, les ovnis, c'est pas simplement. Il y a quelque chose de très humain en fait dans les observations d'ovnis et dans les témoignages. Et je crois que c'est ça qui m'a beaucoup intéressée, et Martin aussi.
Oui, ça on va y revenir, parce que c'est très beau la manière dont vous filmez les témoins. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Alors, avoir une bonne idée, évidemment, ça ne suffit pas. Encore faut-il convaincre un producteur et un diffuseur. Comment est-ce que vous avez vendu cette idée à Canal+, Martin Douer?
Comment est-ce qu'on l'a vendu? En fait, on a eu la chance que ça a été plutôt eux qui sont venus vers nous, parce que voilà, encore une fois, dans ce processus très vertueux de création à la FEMIS, il y a des lectures ouvertes où voilà, il y a beaucoup de professionnels viennent, et parmi eux, il y avait une chargée de programme de Canal+ qui s'appelle Pauline Morino, qui était dans l'assistance et qui à la fin de la lecture est venue nous voir en nous disant qu'elle serait très intéressée de lire notre projet. Et peu de temps après ça, on a eu un rendez-vous avec l'équipe de la fiction de Canal+, qui était qui nous disait qu'ils trouvaient qu'il y avait
quelque chose de très intéressant à aller chercher dans ce sujet, tout en nous poussant à nous dire qu'il fallait peut-être qu'on aille un peu plus loin dans le fantastique que ce qu'on avait fait dans notre ébauche à la Fémis, et que voilà, il fallait qu'on pense un peu. Donc voilà, il y a des mots qui sont un peu venus, comme les logiques de prime time, de feuilletonnant, de créer quelque chose qui soit quelque chose qui puisse être regardé de manière trépidante à 21h à la télévision, et puis on s'est mis au travail, et puis là ça a été un long processus de développement jusqu'à ce qu'on ait voilà ces fameux textes qui nous ont permis de rencontrer Anthony et puis de lancer un tournage par la suite. Voilà.
Je vais vous montrer tout ce qu'on a déjà résolu. Catégorie A. Objet volant parfaitement identifié. Catégorie B, objet volant presque identifié. C, pas assez d'infos pour identifier. Et D, objet non identifié, vraiment ou là.
Et des cas comme ça, ou là, vous en avez combien?
On n'en a pas.
Vous n'en avez pas?
Pas encore.
C'est formidable. Moi, je pensais que vous en aviez plein. Et là, qu'est-ce que c'est?
C'est des affaires qu'on n'a pas encore le temps de traiter.
Voilà, pour ceux qui n'ont pas les images, c'est évidemment une avalanche de dossiers d'affaires qu'on n'a pas encore eu le temps de traiter, qui sont écroulés au pied du très sérieux Didier Mathur, Melville Poupeau. On est un peu dans une planche de Gaston Lagaffe avec Léon Prunel ou Monsieur de Messmaker. Didier Mathur, donc nommé directeur de ce GEPAN avec mission du directeur du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, de fermer ce bureau tout à fait extravagant. Anthony Cordier, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, vous êtes un réalisateur qui a signé déjà 3 longs métrages assez éloignés, a priori, de l'univers que vous filmez dans OVNI. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette affaire?
Bonjour Antoine. C'était une proposition de Clémence D'Argent et Martin Douer et du producteur François Hivernel. Je pense qu'en fait, ils sont venus me trouver au moment où mon dernier film sortait, qui s'appelait Gaspard va au mariage, et qui était une comédie dramatique. Une comédie qui était teintée un peu de poésie par moment, et je pense que ils ont par eux-mêmes en fait fait le lien entre l'univers de Gaspard va au mariage et le projet OVNI qu'ils étaient eux-mêmes en train de développer. Voilà, donc ça s'est fait sur cette base-là, sur la possibilité de croiser nos deux univers.
Mais vous êtes un réalisateur dans la vraie tradition du cinéma d'auteur à la française. D'ailleurs, généralement, vous êtes au moins co-scénariste de vos films. Là, c'est pour la première fois un scénario que vous n'avez pas écrit, un scénario qui dure 6 heures de film, puisque ce sont 12 épisodes de 30 minutes. Est-ce que vous avez justement goûté cet exercice, un peu les réalisateurs américains de l'âge d'or des studios, utiliser le scénario d'un autre pour faire œuvre de son côté? Puisque de toute façon, comme dit un personnage célèbre dans cette série OVNI, dans les films, finalement, c'est l'action qui parle plus que les mots.
Oui, alors c'est sûr que c'était un peu déstabilisant pour moi, puisque j'avais l'habitude donc d'écrire mes scénarios, de faire des films plutôt personnels. Donc, je dirais que quand on est réalisateur, on est habitué, enfin, on doit répondre à des tas de questions. C'est un peu comme dans La Nuit américaine, quoi, quand on voit Truffaut qui répond à des centaines de questions par jour, et c'est vrai que c'est un peu ça le métier, et en général les réponses sont assez naturelles, parce que c'est notre scénario, notre projet, ça sort des tripes, et donc on n'a pas besoin de réfléchir, alors que là, quand on me posait une question, c'est vrai qu'il fallait que j'essaye de comprendre quelles étaient aussi les intentions de Clémence et Martin, si je faisais pas de contresens, voilà, donc les solliciter de temps en temps pour être sûr, donc c'est un petit peu déstabilisant, et en même temps, je dois dire que j'étais pas absolument mécontent de me décharger de sauter l'étape de l'écriture en fait et que je n'affectionne pas particulièrement, donc que eux puissent se taper cette galère en fait c'était plutôt bien pour moi, en fait. Donc, je l'ai pris un peu comme des vacances aussi.
Alors, je ne sais pas si ça a été des vacances pour vous, Melville Poupeau, bonjour. On vient de vous entendre dans l'extrait. C'est vous qui jouez Didier Mathur. Alors, ce n'est pas la première fois que vous vous aventurez dans le monde de la série. Vous avez joué il y a 2 ans un très inquiétant tueur en série dans Insoupçonnable. C'était en prime time sur TF1. Comment est-ce que vous abordez ces rôles dans des séries où j'imagine, pour des raisons économiques, quand on est dans un décor, on tourne toutes les scènes de toute la saison qui se passe dans ce décor, ce qui fait un plan de travail assez complexe pour un réalisateur, mais aussi pour un acteur. Comment est-ce que vous faites progresser votre personnage dans ces cas-là?
Quand j'ai fait Insoupçonnable, j'avais commencé à aborder le travail de façon assez traditionnelle pour moi, à savoir essayer de trouver une arche dans la construction et dans l'évolution du personnage, essayer de trouver plein de points de repère pour distiller un peu cette évolution et que ce soit intéressant de mon point de vue aussi de comédien de travailler le rôle et la complexité. Et puis très vite j'ai abandonné cette idée parce que vu qu'on a quand même un scénario qui est hyper grand, hyper épais et un plan de travail comme vous l'avez dit qui est très éclaté, c'est-à-dire que le matin on peut tourner une scène du premier épisode où Didier Mathur est encore très rigide et très sûr de lui, et puis la scène d'après se passe dans le 12e épisode où il a complètement changé et cette arche a évolué. J'ai très vite abandonné l'idée d'avoir des points de repère et plutôt de me lâcher dans le jeu, d'être à tel point le personnage que les réflexes de jeu me venaient naturellement, que ce soit dans l'épisode 1 ou dans l'épisode 2. Et donc voilà, c'est plus un travail de s'approprier un rôle. Comme disait Anthony, le travail de ma mise en scène, j'ai senti qu'il était lui-même très concentré sur la direction d'acteur, vu qu'il n'avait pas le monopole du scénario. Il était très précis, lui, sur le jeu de l'acteur et très instinctif. C'est-à-dire que pour telle scène qui, moi, j'aurais pu l'imaginer dans tel registre, lui, il la voyait dans un autre registre. Et donc, il a vraiment dirigé tous les acteurs pour qu'il y ait une cohérence et je lui ai fait confiance. Donc, en fait, c'est plus un lâcher-prise, vu que c'est des tournages qui durent 4-6 mois et qu'il y a énormément de scènes et de textes à apprendre. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut se lâcher et un peu ne pas imaginer qu'on maîtrisera tous les paramètres à chaque moment du scénario.
Alors, je ne sais pas si c'était dès l'écriture, j'imagine, mais Anthony Cordier, puisqu'on parle de direction d'acteur, un des grands plaisirs de cette série, c'est d'avoir le sentiment de découvrir une langue un peu disparue. Ce n'est pas le français qu'on parle aujourd'hui, mais pas seulement parce que Didier Mathur dit chiotte à la place d'un juron plus contemporain. Il y a une autre manière de parler, Anthony Cordier.
Ouais, tout à fait. Ça, c'était vraiment présent dans le scénario. Donc, c'est vraiment l'œuvre de Clémence et Martin, qui, voilà, c'est d'autant plus remarquable qu'ils n'ont pas connu directement les années 70. Donc, voilà, ils n'ont pas entendu cette langue-là. Mais c'est vrai que quand on se replonge dans les archives de l'époque, quand on écoute parler, aussi bien les politiciens que l'homme de la rue, quand on écoute les micro-trottoirs, on s'aperçoit, voilà, qu'il y avait une façon de parler qui était assez différente. En gros, on parlait mieux le français avec des phrases plus élaborées. Et puis effectivement, il y avait tout un vocabulaire. Et comme cette série essayait de faire revivre à travers des costumes, des décors, des objets et donc aussi des expressions le plaisir qu'il pouvait y avoir à vivre, à être dans les années 70, c'était intéressant effectivement que chaque personnage ait un peu sa langue et que cette langue aille puiser dans le vocabulaire très très précis de ces années-là.
Look, I want to talk to the man in charge. Parlez au chef. Mr. Lecombe is the highest authority. He isn't even an American.
Je n'aurai pas les réponses.
Monsieur Neary, êtes-vous un artiste, un peintre?
Mr. Neary, are you an artist or a painter? No.
Est-ce qu'il vous arrive d'entendre des sons curieux dans votre oreille, des sons persistants?
Have you been hearing a persistent ringing in your ears?
Presque agréable, mélodique.
An agreeable ringing. No.
Avez-vous des maux de tête, des migraines?
Are you having headaches, migraines? Yeah.
Irritation des yeux et du sinus?
An irritation in your eyes and your sinuses?
Yeah. Des démangeaisons, des allergies?
You have hives? You have allergies?
Des brûlures sur le visage et sur le corps?
You're burning on your face and on your body?
Yes. Who are you people?
Look at this.
Yeah, I got one just like in my living room. Who are you people?
Je pensais...
Oui, je connais la montagne. Monsieur Neary, please, one more question. N'avez-vous pas fait récemment une rencontre?
Have you recently had a close encounter?
Une rencontre plutôt inhabituelle?
A close encounter with something very unusual.
Who are you people?
Monsieur Neary, s'il vous plaît, regardez bien les visages de ces gens, de ces hommes et de ces femmes, et puis dites-moi si vous les connaissez, ou alors sont-ils des étrangers?
Strangers to you? Yeah, except for her.
Oui, son père.
Et vous êtes cru obligé, allez-vous, de venir ici?
And the two of you felt compelled to be here?
Yeah, you might say that.
Mais qu'est-ce qu'allez-vous trouver?
But what did you expect to find?
An answer.
That's not crazy, is it?
Vous écoutez France Culture, plan large sur la série OVNI avec Clémence Dargent, Martin Douer, Anthony Cordier et Melville Poupeau. Et François Truffaut, on l'aura reconnu dans son seul rôle à l'écran pour un autre réalisateur que lui. Il jouait le professeur Lacombe, inspiré par un véritable ufologue français. D'ailleurs, Jacques Vallée, face à Richard Dreyfus, c'est Rencontre du troisième type, évidemment, le film de Steven Spielberg qui est sorti un an avant l'année où se déroule la série OVNI. Melville Poupeau, vous l'avez construit comment? Vous, votre personnage d'enquêteur ufologue amateur et contraint, on dira, parce que Truffaut chez Spielberg, c'est un peu l'incarnation de la bienveillance même, ce qui n'est pas vraiment le cas chez votre personnage, qui pourrait paraître joué par un autre complètement odieux.
Bah, au début, le but, c'était effectivement qu'on le prenne pour un personnage très arrogant, très sûr de lui et odieux, et que petit à petit, il se fissure, il se met à douter, il devient plus humain et il retombe un peu dans l'enfance, et ça c'est grâce aussi au contact avec les autres membres du GEPAN qui eux sont dans un univers un peu parallèle déjà, aussi grâce à sa famille à lui, à ses enfants, à sa fille qui sont bienveillants mais qui n'hésitent pas à lui dire ses quatre vérités. Donc c'était l'idée de faire ce personnage effectivement qui petit à petit en fait s'ouvre et finit par être quasiment illuminé quoi. Donc c'était ça l'idée, et c'est ce qui m'a plu dès le départ dans le personnage, c'était qu'il y avait beaucoup de facettes et beaucoup de facettes qui se développaient dans beaucoup de séquences différentes, pouvoir passer d'un registre plutôt comique à tout à coup quelque chose de plus palpitant, même flirter un petit peu avec les films d'espionnage ou un petit côté hitchcockien par moment. Donc voilà, et ensuite moi comme d'habitude pour les tournage, j'aime bien regarder les autres acteurs qui m'inspirent, donc j'ai regardé effectivement des films Rencontre du troisième type auxquels on fait beaucoup référence dans la série, mais aussi des films comiques des années 70. J'avais envie de retrouver même le jeu un petit peu, de colorer mon jeu de la façon dont jouaient les acteurs dans les années 70. Le jeu a pas mal évolué vers un naturalisme un peu, je dirais, en général, grosso modo, alors que là, il y avait un côté pas théâtral, mais enfin, disons, plus fantaisiste dans le jeu.
Oui, un côté Pierre Richard, par moment, dans votre personnage, mais moi, j'ai aussi beaucoup pensé, peut-être parce que vous avez eu l'occasion de l'observer de près, à Marcello Mastroianni, parce que j'ai le sentiment que tout votre personnage est un peu dans sa moustache, d'une certaine façon, Melville Poupeau.
Ça, c'est vrai que c'était un élément important. Bah, quand on construit un personnage, il y a des moments clés. Par exemple, pour moi, le premier essayage costume, c'est vraiment un moment clé. Ça arrive qu'on fasse des lectures, par exemple, de scénarios avec toute l'équipe autour d'une table. Et là, je suis en général assez mauvais et j'ai aucune idée de où je vais parce que j'ai pas encore endossé le costume du personnage. Et là, la moustache faisait partie intégrante du look et de l'esthétique. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai mis les costumes un peu 70s et cette moustache, j'ai trouvé le personnage. Et ça passe beaucoup par disons la silhouette, la couleur, l'esthétique à donner au personnage. C'est comme ça que je trouve mon caractère, disons. Et c'est vrai que Marcello Mastroianni m'a inspiré parce que je trouve que dans la comédie, il a un rythme, une façon de se moquer de lui-même, de passer des fois d'une extrême élégance à au contraire un côté très ridicule et sans se prendre au sérieux. C'est ça qui m'a inspiré, c'est vrai, chez lui. Mais je pourrais penser aussi à Yves Montand, par exemple, en France, ou Jean Rochefort, ou Pierre Richard.
Clémence Dargent, Martin Douer, puisque Melville Poupeau parlait d'arche narrative pour son personnage, c'est le classique dans ce genre d'histoire, c'est effectivement un sceptique rationaliste qui va finir par y croire, subissant une sorte de processus d'initiation. Or ici, c'est beaucoup plus compliqué, c'est, il me semble, un des grands intérêts de cette série, c'est que ce personnage oscille sans arrêt entre le scepticisme et la crédulité, comme le spectateur de la série, finalement. Et on se dit que l'important, c'est de ne jamais trancher, Clémence Dargent.
Oui, tout à fait. Il y a un côté, pour ceux qui connaissent, très X-Filesien, voilà, on s'est toujours un peu dit que Didier Mathur, c'était Mulder et Scully réunis en une seule personne. Et effectivement, en saison 1 en tout cas, on essaye de ne jamais trancher et d'entretenir ce doute, voilà, entre est-ce qu'on est face à quelque chose de vraiment qui nous dépasse, ou est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y a vraiment une explication toute simple ou en tout cas très terrestre. Et c'est vrai que ben c'est quand même tout le ressort de la série. Je trouve que ça fonctionne là-dessus. Enfin, le fait en tout cas de poser sans arrêt des questions, c'est ça qui maintient aussi l'attention du spectateur. On s'est très vite rendu compte avec Martin qu'en fait ce qui était plus intéressant, c'était beaucoup plus les questions que les réponses finalement qu'on pouvait apporter, et qu'il fallait sans cesse qu'on ait du mystère, qu'on n'en ait pas trop, parce que sinon évidemment on sait plus qu'on suit, et c'est, il y a un plaisir aussi à l'élucidation, à la logique qui triomphe. Il y a un vrai plaisir de ça, mais en même temps, si on n'a que ça, on s'ennuie aussi, et il manque une dimension. Et c'est vrai que le projet d'ailleurs a évolué, parce que quand on est sorti de la FEMIS avec notre pilote, il était pas, il n'y avait pas cette dimension fantastique en réalité. Enfin, le concept était assez beaucoup plus dans la comédie humaine en fait de Didier. C'était toujours ce type voilà très cartésien qui se retrouvait face à des gens qui ont vu des ovnis, et à chaque épisode il résolvait une enquête en fait. Il y avait un truc un peu programmatique comme ça, et en travaillant avec Canal+, notamment, on s'est dit que en fait il fallait aussi du mystère, il fallait qu'on y croie, qu'on donne au moins une chance à ces ovnis d'exister. Et voilà, ça a été un des enjeux de l'écriture, qui n'est pas toujours évident, hein, mais c'est de, comme vous le dites, effectivement, osciller entre mystère et scepticisme sans tomber jamais dans l'un des deux gouffres.
Les envahisseurs. Avec Roy Tinas dans le rôle de David Vincent. Les envahisseurs, des êtres inconnus venus d'une planète en train de mourir. Leur destination, la Terre. Leur dessein, en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, tout a commencé au cours d'une nuit passée sur une route perdue dans une lointaine campagne, à la recherche d'un raccourci qu'il ne trouva jamais. Tout a commencé lorsqu'il s'arrêta, écrasé de sommeil et de fatigue, près d'une auberge abandonnée. Tout a commencé avec l'atterrissage d'un vaisseau spatial venu d'une autre galaxie. Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là et qu'ils ont pris une forme humaine. Mais il doit convaincre un monde incrédule qu'un certain cauchemar vient de commencer. Edward Andrews, Lynn McCarthy et Suzanne Pléchette seront les autres interprètes de l'épisode d'aujourd'hui, La Mutation.
La mutation, ça fait toujours aussi peur aujourd'hui. Courte série que ces envahisseurs, 2 saisons seulement. Hein, la seconde était même restée inachevée. Les envahisseurs, donc créés par Larry Cohen, qui était une série formidablement mise en scène. Je ne sais pas si on s'en souvient à ce point, avec ces mouvements toujours très rapides, obliques de la caméra, les plans inclinés, les courtes focales et tout ça. C'est une série qui a été diffusée et rediffusée ad nauseam sur la télévision française pendant toutes les années 70, devant des spectateurs qui étaient pétris de trouille et rendus complètement paranoïaques. Et cette série est nommément citée dans la vôtre, dans OVNI, dès le premier épisode, par un témoin qui prétend avoir été enlevé par des extraterrestres, mais dont le récit est immédiatement suspect aux yeux du GEPAN, précisément parce qu'il colle de trop près au générique de la série qu'on vient d'entendre, avec la voix inquiétante de Jean Berger, comme ça, dans la version française. Et c'est le côté post-moderne de votre série. Les personnages sont tous conscients, en fait, des films, des séries télévisées disponibles jusqu'à cette année 1978, Martin Douer.
Oui, tout à fait. Il y a une espèce de je dirais, enfin, de second degré, effectivement, parce que disons que tout le monde sait dans la série à quel point une soucoupe volante c'est ridicule. Tout le monde sait qu'il y a la tentation d'aller puiser dans ces références qui existent beaucoup. Et disons que c'est pour ça que en fait toutes ces références et tout ça nous sert un peu d'un terreau sur lequel on a essayé d'aller un cran plus loin ou un cran moins loin, peut-être à des moments quand on a plus envie d'en rire. Mais effectivement, on part du principe qu'on sait qu'on est dans un genre très codifié, avec où des mythologies sont très établies, et justement on les rappelle un peu aussi parce que finalement on essaye d'aller au-delà, d'aller ailleurs, d'en inventer peut-être une légèrement différente. Et donc ce qui est une des raisons, au-delà du plaisir de profiter et de faire ce voyage dans tout cet univers qui est quand même était un élargissement de la création aussi bien littéraire que cinématographique. Voilà, c'est un peu au-delà du plaisir de revoyager là-dedans. C'est un peu pour ça que tout ça existe autant dans la série.
Anthony Cordier, on sent ce même mouvement dans la mise en scène. Il y a des citations cinéphiliques discrètes, mais qu'on peut quand même déceler. Quand on a un rendez-vous dans un champ de betteraves, on pense évidemment à un champ de maïs dans La mort aux trousses. Des torches dans une forêt brumeuse, on pense évidemment à E.T., une séquestration dans une tour réfrigérante. On pense à Brésil, mais il me semble, puisqu'on parlait tout à l'heure de Rencontre du troisième type, que vous gardez quelque chose de fondamental de chez Spielberg, en particulier dans votre mise en scène, c'est la capacité d'émerveillement du spectateur. Et on parlait de cet oscillement entre crédulité et scepticisme, et il y a des moments de pur émerveillement.
Peut-être, c'est peut-être lié au fait que, enfin, pour moi, le cinéma est un réel émerveillement quand je suis spectateur, mais aussi quand j'en fais. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive sur un plateau et que je vois qu'il y a deux camions, en fait, je suis déjà émerveillé. Je trouve ça incroyable, en fait, de mobiliser deux camions ou qu'on puisse bloquer une rue pour faire du cinéma. Malgré l'expérience et l'âge, ça m'épate toujours, en fait, voilà, que des acteurs puissent se mobiliser pour venir incarner de la fiction pour moi. Je trouve ça toujours extraordinaire. C'est aussi un métier où on a la chance de travailler, de traverser plein d'univers différents. Voilà, on peut, récemment, je faisais des repérages pour la seconde saison de la série et j'ai rencontré un baron, voilà, qui était un personnage extraordinaire. Et voilà, si cette série n'existait pas, si la fiction n'existait pas, je ne l'aurais certainement jamais rencontré. Donc, je trouve que c'est une chance, que c'est une joie aussi, que cette joie, elle doit se voir sur le plateau pour qu'elle puisse se voir aussi à l'écran. Et donc, cet émerveillement puisse un peu être incarné pour les spectateurs.
Un émerveillement qui va avec le minimum, puisque évidemment il faut pas trop en montrer. Il vaut mieux suggérer qu'être dans l'explicite, parce qu'on court le risque de rater son effet, ou c'est pour entretenir ce désir presque de voir. Anthony Cordier.
C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure du personnage de Didier Mathur, comme effectivement il est d'abord défini comme quelqu'un d'extrêmement rationnel, mais c'est aussi quelqu'un qui a envie de croire. Je veux dire, par exemple, il a envie de croire que son couple avec Élise, qui est jouée par Géraldine Pellas, dont son ex-femme, n'est pas tout à fait fini, qu'ils ont un avenir, qu'ils ont un destin. Alors
ça, c'est le côté screwball comédie de cette série. Oui.
Exactement. Voilà, ça c'est un peu la deuxième veine, donc la screwball comédie qui rejoint aussi d'ailleurs. On faisait référence à La mort aux trousses, à Cary Grant, donc effectivement, à un certain cinéma hollywoodien des années 40, des années 50, et que Melville retrouve à la fois dans son élégance et dans sa façon de jouer la comédie, comme il disait tout à l'heure, c'est-à-dire de pas s'accrocher à tout prix au naturalisme, comme on peut avoir parfois tendance à le faire en France, mais à être capable d'assumer le fait d'être un amuseur pour le spectateur, d'être un clown pour le spectateur. Donc voilà, je trouve que là où il est vraiment épatant, je trouve que c'est de tenir en fait ces deux choses, ces deux planètes, celle de l'élégance et celle de la clownerie en fait.
Puisqu'on parlait des envahisseurs là à l'instant, la beauté de cette série qu'on la revoit, c'est aussi qu'elle est comme un reportage sur une Amérique, celle de la fin des années 60, une Amérique en pleine déréliction, en ruine morale et presque matérielle aussi. Il me semble, Clémence D'Argent, qu'OVNI comme toutes les science-fiction, comme tous les films en costume, puisque cette série est une série d'époque, c'est aussi évidemment une manière de parler d'aujourd'hui. Ce que vous filmez en 1978, ce sont les prémices de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et c'est peut-être pas pour rien que ça commence par une fusée, symbole phallique s'il en est, et fierté nationale, qui explose en plein vol, Clémence Dargent.
Non, mais tout à fait. Et d'ailleurs, c'est marrant que vous disiez ça, parce que c'est pas forcément quelque chose dont on a pris conscience tout de suite, j'ai l'impression, avec Martin. Enfin, j'ai jamais pensé qu'OVNI était une série sur la remise en question de la masculinité ou la crise de la virilité. parce que, enfin, je pense pas que c'est une série féministe dans le sens où il n'y a pas beaucoup de femmes dans la série, enfin, proportionnellement. Ça n'a jamais été vraiment revendiqué comme tel, mais c'est vrai que cette série, c'est quand même l'histoire d'un homme qui va perdre son pouvoir de domination, en fait, pour le meilleur d'ailleurs. Mais voilà, ça commence effectivement par un objet phallique qui explose, c'est tout à fait un hasard. Et Didier, oui, c'est un homme très sûr de lui, qui évolue dans un monde d'hommes, le monde des ingénieurs, voilà, donc il est dans sa zone de confort. C'est un homme qui se pense tout puissant, qui a du mal à reconnaître ses erreurs aussi. D'ailleurs, il passe son temps à dire dans la série qu'il n'a pas fait d'erreur au début. Il ne comprend pas pourquoi sa fusée a explosé, il ne comprend pas pourquoi sa femme l'a largué. Et c'est aussi un homme qui, oui, qui assoit son pouvoir parce qu'il sait, parce que c'est un scientifique, il a des connaissances, il maîtrise. Et petit à petit, il va se rendre compte qu'en fait, il ne sait rien et qu'il maîtrise que dalle, quoi. Il ne peut même plus compter sur les lois de la physique. Et c'est vrai que c'est aussi l'histoire d'un homme qui face à un monde qui change, quoi. Et qui se rend compte qu'il va falloir qu'il change lui aussi. Et qu'il va devoir apprendre à laisser entrer autre chose dans sa vie, d'autres récits, d'autres manières de voir le monde. C'est un homme qui va s'ouvrir aux autres, qui va petit à petit se transformer, qui va un peu apprendre à écouter aussi. Les personnages et qui est un homme face à un monde en crise, quoi. Et effectivement, je pense que ça parle en fait pas mal de notre époque dans ce sens-là.
Déjà, j'étais dans la voiture pour maintenir l'accélérateur vu qu'il n'y avait plus de démarreur sur cette voiture.
Et c'est à ce moment-là que vous avez vu quelque chose d'étrange ?
On l'a aperçu comme une boule qui descendait du ciel, une traînée lumineuse, on appelait ça.
Vous avez décidé de...
J'ai décidé d'aller voir ce qui se passait sur place, quoi. Je me suis dit, on ne sait jamais. S'il y a quelque chose, quoi que ça, je peux être utile. Peut-être simplement par curiosité aussi.
Pendant ce temps, Salomon et...
Jean-Pierre était remonté chercher de la marchandise et Salomon un appareil photo. Alors l'objet, il est parti de sur la droite, là-bas, et est descendu en oblique, comme ça.
Ça avait quelle forme ?
D'une traînée lumineuse.
À peu près à quelle distance vous pensez que c'était ?
Les autorités ont estimé 300 à 400 mètres. J'ai démarré, je suis sorti du parking et arrivé au niveau de la route, il n'y avait plus rien. Alors j'ai continué, j'ai décidé de faire demi-tour là-bas. Et arrivé à ce niveau-là, j'ai aperçu une petite boule qui oscillait dans le champ, là par là. Et la voiture s'est arrêtée. La petite boule, elle est venue se mettre sur le capot, je me suis retrouvé dans le brouillard. Alors j'ai essayé de sortir, les portières étaient bloquées. Et puis je me suis endormi.
À quoi ressemblait l'objet que vous avez aperçu dans le ciel ?
C'est-à-dire que, de temps, c'était blanc, opaque, et puis, ça faisait comme un cigare. Lumineux, hein, d'un blanc opaque. Ça faisait comme un cigare qui descendait tout doucement en direction du champ de chou.
Moi, ce qui m'a fait penser à une fusée du 14 juillet, c'est qu'à la fin, c'était pas très net. Ça faisait pas un cigare vraiment une forme rectiligne. Ça faisait très net à l'avant, et à la fin, c'était très flou. Donc effectivement, comme une boule de feu qui descendrait, puis qui ferait une trame derrière.
Vous écoutez France Culture, plan large sur la série OVNI avec Clémence Dargent, Martin Douer, Anthony Cordier et Melville Poupeau. Et ce qu'on vient d'entendre, ce n'est pas un extrait de la série OVNI, c'est un reportage très sérieux diffusé le 26 avril 1980 dans Temps X, l'émission mythique des frères Bogdanov, la première consacrée à la science-fiction à être diffusée sur une chaîne nationale française, c'était TF1 en l'occurrence, la chaîne de Jean-Claude Bourret par ailleurs. Et ce qu'on vient d'entendre, ce sont donc Jean-Pierre Prévost Prévost, Salomon Ndiaye et Franck Fontaine, protagonistes de ce qu'on avait appelé à l'époque l'affaire de Sergi Pontoise, qui avait vu, selon leur récit, le dit Franck Fontaine se faire enlever par des extraterrestres. Ces images d'archives, on les retrouve dans un des épisodes diffusés prochainement d'OVNI, c'est le 9e, je crois, dans un moment documentaire qui devient tout à fait saisissant. Et ce qui est très beau, c'est, on l'a évoqué en début d'émission, c'est que sans jamais adhérer sans réserve à leurs propos, ces témoins, la série ne les prend jamais de haut, Martin Douer.
Oui, effectivement, c'était, ça fait partie de tout ce qu'on a, enfin, qu'on a découvert tout au long de notre travail avec Clémence, de nos recherches et tout ça. C'est à quel point ces récits sont importants pour les gens qui ont vécu ces événements, c'est des gens pour qui souvent en fait ces apparitions qu'ils n'arrivent pas à expliquer ou ces moments qu'ils ont vus, c'est parfois la chose la plus forte qui leur soit arrivée dans leur vie. Peut-être que après il va plus rien ne sera comme avant effectivement pour eux, et c'est vrai que nous très tôt on s'est rendu compte de ça en allant notamment dans des réunions où se rencontrent les témoins de phénomènes mystérieux ou les gens qui pensent avoir été enlevés. Et c'était des choses d'ailleurs dont nous avaient témoigné aussi les enquêteurs, les vrais enquêteurs qu'on avait rencontrés du GEPAN, c'est que à chaque fois vraiment une des composantes très importantes de ça, c'est qu'il faut faire avec effectivement l'émotion et les sentiments des gens qui ont vécu ces événements, et qu'à partir de là où on se dit que voilà le récit et la parole de quelqu'un a de la valeur et que le ressenti de quelqu'un a de la valeur, c'est très difficile de prendre de haut, et on se met à regarder le sujet sous un angle complètement différent, parce que il est plus juste question de jouer à la devinette de bon bah alors avec quoi tu t'es trompé, mais il est question de rentrer un peu dans les yeux, dans le regard de quelqu'un, dans la subjectivité de quelqu'un, pour comprendre quel chemin a fait cette pensée pour se retrouver à être ce qu'elle est maintenant. Et donc ouais, c'est un des aspects extrêmement intéressants du travail qu'on a fait avec Clémence et qu'on a découvert surtout au travers des témoignages d'OVNI.
Oui, parce que c'est une vraie question de morale, de mise en scène. Anthony Cordier ne peut être surplombant avec aucun des personnages, et ce qui fait que, entre autres choses, mais c'est sans doute ce qu'il y a de plus émouvant dans cette série, c'est que c'est une série sur l'envie, sur le besoin de croire, sur le besoin d'être cru aussi dans ce qu'on raconte. Alors c'est le besoin des personnages de croire en quelque chose, mais c'est aussi celui des scénaristes, des réalisateurs, des acteurs de croire en ces mêmes personnages, et évidemment celui du spectateur de croire en l'histoire qu'on lui raconte. C'est un manifeste pour le droit de rêver, cette série, Anthony Cordier.
Oui, après c'est le principe de la fiction, quoi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de fiction? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de choses fabriquées et fausses pour nous faire croire que ça existe? Donc moi je crois beaucoup en la fiction je crois beaucoup en la fonction quasiment consolatrice en fait de la fiction. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui nous aide dans la vie. Donc oui, ça fait tout à fait partie de la thématique de cette série, ouais.
Melville Poupeau, de même, ne jamais être surplombant avec les personnages, alors, non seulement les personnages qu'on joue, mais ceux face auxquels vous jouez, hein, il faut dire le casting extraordinaire qu'il y a dans cette série. Melville Poupeau ?
Vous m'entendez ?
Oui.
Oui, bah, tous les acteurs qui sont passés sur le tournage d'OVNI, même pour quelques jours, se sont éclatés avec leurs personnages, avec la direction d'acteurs d'Anthony, avec tous les accessoires, les costumes. Il y avait vraiment un plaisir de faire ce travail, de jouer. Il y avait quelque chose d'assez enfantin qu'on retrouve aussi, je trouve, dans le résultat de certains comparent ça un peu à de la BD ou à Spielberg aussi, qui a gardé ce côté enfantin et une façon de se mettre au niveau des personnages et de rêver avec eux et au même niveau. Et ce que disait Martin est très intéressant. C'est vrai qu'on a l'impression qu'avec cette série, il y a presque une parole qui se libère, et que des gens qui ont vu quelque chose et qui n'en parlent pas de peur de passer pour des illuminés ou des drogués ou je sais pas quoi, tout à coup peuvent se dire « Non, mais en fait, je suis pas le seul à avoir vu ces phénomènes bizarres, inexpliqués. » Et je trouve que ça fait aussi partie du fait... Enfin, c'est grâce au fait qu'on ne prend pas les gens de haut dans la série, même les plus farfelus, que ça a peut-être même une petite valeur libératrice, cette série.
Voilà, le GEPAN, qui existe toujours aujourd'hui, hein, sous un nom légèrement différent, risque de recevoir beaucoup d'appels à cause de cette série.
Pardon ? Il paraît d'ailleurs qu'ils en ont reçu pas mal depuis le début de la promo.
Ça y est, ben voilà, c'est parti, ça vous donnera du matériau pour la seconde saison. Et ce rapport surplombant ou fasciné, il me semble que c'est cet équilibre aussi, Anthony Cordier, qui se joue dans votre façon de reconstituer 1978. C'est-à-dire que ce que vous montrez, c'est moins le côté démodé ou le côté fascinant de l'époque, mais ce qu'il en reste aujourd'hui dans l'imaginaire, comment cette époque s'est inscrite dans la culture pop et comment on l'imagine aujourd'hui, Anthony Cordier.
Oui, ben on s'est très vite dit avec Clémence et Martin que cette série qui se déroule donc dans les années 70 devait raconter aussi un peu nos racines en fait, nos origines en fait, là d'où on vient et devait mettre en évidence la naissance de tas de choses, la naissance de tas d'objets qui allaient devenir, qui allaient envahir notre quotidien, la naissance de l'ordinateur par exemple. Objet très étrange et très volumineux et pas très efficace à l'époque, mais qui allait finir par s'imposer. Ça passe donc des objets, mais aussi des par exemple des figures féminines. Il y a c'était pour nous en fait, et donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce que cette série raconte la crise du phallus ou pas, voilà, ce qui permettra de rebondir sur Ferreri dans la suite de l'émission éventuellement. mais pour moi, voilà, je pensais 1978, je pensais Marco Ferreri, Bertrand Blier, donc un personnage de mâle qui est celui qu'incarne Melville Poupeau, un espèce de giscardien très rationnel, très sûr de lui, et qui va voir émerger face à lui sa femme qui est une sorte de Wonder Woman, de femme très très sûre d'elle et en même temps pas satisfaite par la place qui lui est réservée dans la société, une fille qui va être une sorte de pré-écolo, un personnage donc de militaire joué par Nicole Garcia qui va être une figure maternelle. Voilà, c'était un peu ça qu'on voulait raconter aussi à travers OVNI.
Merci beaucoup Clémence D'Argent, Martin Douer, Anthony Cordier, Melville Poupeau, OVNI, 12 épisodes de 30 minutes, c'est sur Canal+, le lundi soir par tranche de 3 épisodes depuis le 11 janvier, c'est aussi en intégralité sur MyCanal. Quant à l'impeccable bande-son qui fait beaucoup pour nous replonger en 1978, bande-son composée et concoctée par Tilassine, il y a aussi des musiques de l'époque comme ce centre atomique du génial Janko Nilovic, c'est chez Milan. Et puisque, comme je le disais en introduction, le cinéma comme la vérité est ailleurs, quelques nouvelles des plateformes dans Plan Large. Shellac, le distributeur indépendant, découvreur et passeur de cinéastes toujours plus singulier, lance sa propre plateforme de VOD depuis cette semaine, le Club Shellac. Vous y découvrirez 12 films par mois avec 3 nouveautés chaque semaine, des films de son catalogue évidemment, comme en ce moment les 1001 nuits de Miguel Gomes, dont on peut voir l'intégrale sur la plateforme, ou des films de l'ovniesque, pour le coup, et burlesque Emmanuel Mouret, mais aussi des inédits glanés ici et là. C'est le Club Shellac et ça ne coûte que 4,99€ par mois. Du côté des géants du secteur, alors qu'on apprend qu'Apple va coproduire Kid Bag, le film de Ridley Scott qui racontera l'ascension au pouvoir de Napoléon avec Joaquin Phoenix dans le rôle du futur empereur, la cinémathèque française a annoncé, elle, que Netflix devenait son mécène pour 2 ans au moins dans la restauration d'un autre Napoléon, le monument de 7 heures d'Abel Gance. Alors, c'est pas certain qu'il soit diffusé sur la plateforme parce qu'il est plutôt prévu pour être projeté simultanément sur 3 écrans géants, mais évidemment, bel effet d'image pour Netflix. Et puis enfin, puisque le cinéma c'est aussi à la radio, la Compagnie des œuvres de Mathieu Garrigou-Lagrange sur France Culture sera tout entière consacrée la semaine prochaine à Chantal Akerman. Émission à écouter avant la rétrospective en 10 films que consacrera la Cinéthèque à la cinéaste du 25 janvier au 15 mars. Et en complément évidemment du Plan Large que nous lui avions consacré à Chantal Akerman, c'était en novembre 2017. Dans l'immédiat, c'est l'heure de reprendre un peu de purée.
Andrea, tu en veux un peu?
Ah oui, Philippe, j'adore la purée.
Elle est pas mauvaise.
Merci.
Il manque un peu de beurre, au coup.
Oui, je l'ai fait exprès. Oui, pourquoi? C'est une purée médicale.
Une purée médicale,
oui.
Allons.
Il faut tous en crever alors.
Tu m'as fait un effort, Michel. C'est une question de volonté. Je pense que tu es un Indien. À Bombay, un petit Indien. Et que tu as faim. Et que tu as très faim. Ah, si, tu as très faim. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Allez.
Tu y as pensé? Et alors? Mange encore. Mange encore, mon petit Michel. Mange. Si tu ne manges pas, tu vas pas mourir.
Voir la grande bouffe et vomir, titré Télérama en juin 1973, écho de l'immense polémique provoquée peu avant au Festival de Cannes par le chef-d'œuvre de Marco Ferreri, un film que la présidente du jury, la très digne et épouvantée pour le coup Ingrid Bergman, avait trouvé, comme d'ailleurs La maman et la putain de Jean Eustache, présenté la même année, sordide et vulgaire, je la cite. Plus grand et même seul succès commercial de Marco Ferreri, La Grande Bouffe et l'orgie sulfureuse qui a sans doute masqué le reste de l'œuvre tout aussi passionnante et dérangeante de celui qui se désignait lui-même volontiers comme un cinéaste du mauvais goût, frondeur, provocateur, turbulent, radical, irrécupérable mais aussi absurde et rabelaisien, un observateur passionné de tous les appétits, comme le décrit dans un livre tout juste paru, la première étude consacrée à un des poètes les plus dérangeants de la folie de son temps, Gabriela Trujillo, que nous avions reçu dans Plan Large il y a tout juste un an pour parler d'un cinéaste autrement plus raffiné, Kenji Mizoguchi. Le livre s'appelle Marco Ferreri, le cinéma ne sert à rien, un titre qui résonne évidemment tragiquement en cette époque de fermeture des salles, Mathieu Macheret.
Ah oui, c'est un titre qui tombe à pic, en effet, Antoine, et qui nous rappelle combien les livres sur le cinéma sont là aussi pour prolonger son expérience, surtout quand il n'est pas là. Mais dans le cas de Marco Ferreri, le titre de l'essai de Gabriela Trujillo prend encore un autre sens, puisque l'essayiste se penche là sur une œuvre encore très ignorée, en grande partie invisible, et donc participe de sa redécouverte. Dès qu'on évoque le cinéaste milanais, survient en effet un drôle d'effet de trompe-l'œil, puisqu'on a l'impression en effet de le connaître très bien pour La Grande Bouffe, son film le plus célèbre, peut-être parfois pour toucher pas à la femme blanche, un western brechtien qui a été tourné dans le trou des Halles, peut-être aussi possiblement pour les contes de la folie ordinaire, mais en vérité, derrière tout ça, il y a encore une trentaine d'autres titres qui sont quasiment jamais diffusés, qui est même parfois très difficile de trouver, c'est-à-dire tout un continent perdu, et on se demande comment il se fait qu'on ait perdu à ce point de vue les films du grand Ferreri, qui était ce satiriste truculent dans la grande tradition des contes populaires italiens de la Renaissance, mais aussi doublé d'un cinéaste résolument moderne, l'égal en son temps d'un Godard ou d'un Pasolini. Alors évidemment, il semble bien que les décennies qui ont suivi sa mort en 1997 à Paris aient été bien pressées de tourner la page du mordant qui caractérisait les films du cinéaste, tourner la page de sa causticité, de son désenchantement assez définitif, de son rire féroce et impitoyable, et on réalise à quel point les décennies qui ont suivi ont réalisé toutes les prophéties de son cinéma. Vif et enlevé, le livre réunit sur 160 pages un véritable bréviaire de l'œuvre ferrérienne qui condense d'un seul trait à la fois son élan et ses grands motifs, et on pourrait dire son esprit et sa chair. Pour cela, Gabriela Trujillo varie les approches. Il y a d'abord un chapitre monographique qui un premier chapitre de haute volée qui retrace chronologiquement toute la carrière de Ferreri film par film. Et puis ensuite, on trouve des approches transversales qui examinent l'œuvre un peu sous tous les angles, ressorts esthétiques, significations politiques. Page après page, l'essai propose beaucoup de choses. Par exemple, une étude consacrée au scénariste attitré de Ferreri, Raphaël Ascona, qui était un complice déterminant du cinéaste avant qu'il ne se tourne de plus en plus vers des femmes scénaristes. L'essai tire aussi le portrait de l'acteur Ugo Tognazzi, qui a prêté sa figure de mâle méridional à bon nombre des personnages de cette œuvre. On trouve également un chapitre sous forme de bestiaire qui décline un peu tous les animaux comme ça qui peuplent le cinéma de Ferreri un peu comme une ménagerie. Il y a aussi une mise en perspective subtile des rapports entre hommes et femmes qui est filée tout au long de l'œuvre. L'essai repère surtout en Ferreri le témoin évidemment privilégié d'une sorte de crise de la civilisation occidentale et surtout de son fleuron, l'homme moderne, qui est un espèce de pantin complètement aliéné à son environnement technique et industriel, où il ne trouve pourtant que dérision et vacuité soit un reflet de ses propres limites. Et on pense évidemment, quand on lit ça, au héros du formidable Break-up, film très difficile à voir, très rare, où Marcello Mastroianni, en fringant directeur d'usine, obsédé par la quantité d'air que peut contenir un ballon gonflable avant d'éclater, se lance dans une quête absurde qui révèle en lui la fêlure civilisationnelle et un néant vraiment vertigineux. Ou encore, au héros de Dillinger est mort, qui est joué par le grand Piccoli, et qui s'abîme une nuit dans la contemplation d'un revolver et finit par flinguer tout ce qu'il rattache au monde ordinaire, hanté par la bêtise des objets et l'horizon d'une consommation aveugle. En tout cas, le livre réussit l'essentiel, c'est-à-dire rendre vivants les films de Ferreri, les ramener à la mémoire du lecteur, surtout s'il ne les connaît pas forcément, ce qui peut être mon cas d'ailleurs aussi, puisqu'il y a beaucoup de films de Ferreri que je n'ai pas vus, qu'il me reste à voir, comme Le Harem, Pipi Caca Dodo, Yabon les Blancs. On se demande où sont passés tous ces films où Ferreri semble s'être acharné à lever tous les tabous, à repousser les limites du représentable. Et en même temps que la sortie du livre devait évidemment avoir lieu une rétrospective Ferreri à la Cinémathèque, qui est repoussée évidemment comme beaucoup de choses à plus tard par la crise sanitaire, on finit par avoir l'habitude, mais depuis quelques années, le festival Il Cinema Ritrovato à Bologne poursuit une rétrospective au long cours des films de Ferreri qui fait état, année après année, de la campagne de restauration dont l'œuvre fait en ce moment l'objet. Et on a pu y voir et piocher comme ça quelques très belles copies de titres assez rares qu'on souhaiterait de nos voeux à voir arriver sur les écrans français, ce serait formidable. Et on en a pioché quelques-uns, alors comme par exemple El Cochecito, un film de 1960 qui s'appelle en français La Petite Voiture, qui est le troisième film de Ferreri qui nous rappelle aussi à quel point que le cinéaste a fait ses débuts en Espagne, dans le cinéma espagnol. Et c'est une formidable comédie grinçante sur la rigidité morale du franquisme. Ou alors Le Lit Conjugal en 1963, le premier long métrage italien de Ferreri, où Ugo Tognazzi se marie à une femme et est complètement vidé sexuellement par son appétit et surtout la soif de procréation qu'elle professe. En tout cas, comme le note Gabriela Trujillo, le héros ferrérien est le maître d'un monde qui s'écroule en entraînant dans sa chute toutes les certitudes.
Merci beaucoup Mathieu Macheret. Marco Ferreri, Le cinéma ne sert à rien, de Gabriela Trujillo, est édité par Capricci. On espère voir très prochainement cette rétrospective et voir édité en vidéo les films restaurés que vous avez mentionnés. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Audrey Guélil. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Laurent Polleret. La semaine prochaine, c'est un autre cinéaste sulfureux et dérangeant, David Cronenberg, qui sera au centre de notre plan large. Charge. Nous en parlerons avec Fabien Demangeau, auteur du livre La Transgression selon David Cronenberg. Et Sophie-Catherine Gallet nous parlera des trois premiers films du délicieux Taïwanais Tsai Ming-liang, édité en DVD. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Toute une vie, présenté par Christine Bernard.